Salut à tous et bienvenue dans ce hors-série de Tech Café. C'est Guillaume Vendée, comme d'habitude, que vous retrouvez derrière le micro et dans vos oreillettes pour vous présenter ce nouveau petit format. Un format complémentaire à ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on va systématiser un petit peu les hors-séries, comme on faisait la chronique des composants. On va probablement vous apporter des épisodes en plus dans Tech Café. Petit rappel d'actu, avant qu'on aille un peu plus loin, on a lancé notre petit financement participatif sur Tipeee. Allez jeter un coup d'œil. tipeee.com/tech-café. Et pour cet épisode un peu spécial, j'invite une plume assez célèbre de la tech web française, mais aussi un véritable entrepreneur du web qui était déjà intervenu occasionnellement dans Tech Café par le passé, à savoir Ulrich Rosier. Salut Ulrich.
Salut Guillaume.
Merci
plus,
beaucoup.
Mais tu tout rouge.
Bah, il faut quand même. Si, t'étais intervenu, je me rappelle plus, ça fait, je pense, plusieurs années, à l'occasion, je pense, d'un salon, je suis même plus certain de pouvoir dire lequel, mais en tout cas, t'étais passé en coup de vent dans un tablette café, et puis on a très évidemment, régulièrement, Pierre-Olivier qui bosse avec toi dans Tech Café. Cette fois-ci, c'est un petit peu toi qu'on voulait avoir et avec qui je voulais discuter, puisqu'il y a une actu de ton côté, et tu me disais que t'étais un peu fatigué.
Ouais, pour Pierre-Olivier, je te remercie parce que vu que je discute tous les jours avec lui et que je débat tous les jours avec lui, j'ai l'impression d'être un peu dans Tech Café tous les jours. Mais...
Ah bah c'est bien, c'est parfait. Si l'ambiance est la même que dans les épisodes, ça va, c'est chouette.
Ah ouais, c'est l'ambiance. Ouais, une grosse actu, ça fait 6 mois qu'on travaille sur le lancement d'un nouveau média, et ce nouveau média, c'est Numérama. Donc on a été discret jusqu'au jour de la sortie, on en a parlé à très peu de gens. Et les informations à retenir, c'est qu'on a fait l'acquisition de Numérama, qui est un média qui a 13 ans, quand même, qui était un blog qui s'appelait Ratatium il y a 13 ans. Ouais. Qui a été fondé par Guillaume Champeau, du coup, qui reste responsable de la rédaction, rédac chef. Et on n'a pas fait simplement l'acquisition, c'est que c'est un média qui était un peu à bout de souffle. Et du coup, on a retravaillé sur tout. On a appelé ça une réinvention de marque, on a appelé ça le projet N en interne. Donc ça a été 6 mois de travail sur le projet N qui était... avec un objectif, on va dire, modeste, qui était de réinventer une marque média, donc du positionnement à la ligne éditoriale, en passant par la technique, la monétisation, etc., etc., l'équipe.
Alors, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, on peut être dans deux cas de figure. Soit on est un lecteur, entre guillemets, et n'y voyons pas de côté péjoratif, mais un lecteur un peu passif de tous ces médias-là. Et puis, on voit un peu un changement d'identité. Peut-être qu'on perçoit pas tout de suite et immédiatement les changements. Et puis, si on est un lecteur des médias auxquels on peut être habitué, sur lesquels tu bosses notamment, tels que Frandroid, on apprend ça. Mais si on veut aller un peu plus loin, vous nous faites, et quand je dis vous, c'est l'équipe humanoïde, tu vas d'ailleurs pouvoir nous repréciser qui est ce humanoïde, mais vous nous faites vivre un petit peu les coulisses et puis un petit peu la réflexion de fond, et ça c'est assez nouveau, je trouve. Je ne sais pas s'il y a un équivalent sur le web d'une sortie d'un média comme ça.
En gros, on est quand même dans un contexte hyper, hyper compliqué sur le web. Les gens commencent à en être conscients, c'est-à-dire qu'on a les médias qui commencent à en parler directement. J'ai lu il y a quelques... semaine un billet sur MacG, un papier sur MacG où justement il disait on galère, on est obligé de licencier quelqu'un, on galère. Et c'est pas le seul, tous les médias en ligne galèrent, peut-être pas les médias à clic, mais en tout cas je parle de vrais médias, et c'est pas pour rien qu'ils galèrent, il y a X raisons de galérer, on pourra parler du adblock, etc., mais c'est pas une des seules raisons. C'est qu'il y a en ce moment des changements qui sont profonds dans la consommation du média, la consommation de contenu sur Internet. Et tu en fais aussi partie avec Tech Café depuis que tu as lancé ton Tipeee. C'est un peu comme si tu avais maintenant un modèle de monétisation. Il y a tout un mouvement dans lequel on a eu une grosse réflexion. Et c'était important que en lançant un média généraliste, parce que finalement, on n'avait pas de média généraliste. Et finalement, Numérama, c'est un média généraliste. Il fallait qu'on fasse un énorme travail un énorme travail de repositionnement de cette marque. Et c'était long.
Bah, j'imagine, bah, du coup, 6 mois de boulot, mais même sans doute des réflexions en amont. Tu disais tout à l'heure, et tu nous dis depuis tout à l'heure, on. Alors, bon, évidemment, ceux qui nous suivent dans Tech Café savent bien de qui on veut parler. Est-ce que tu peux nous représenter un petit peu, en quelques mots, Humanoïd, et quelles sont un peu ses visions et ses activités?
Je vais te faire la version courte. Alors.
C'est mieux.
Bon, la version courte. On est fin 2007. Et Google annonce officiellement le lancement d'Android. C'est 2-3 ans après le rachat d'une entreprise qui s'appelait Android Inc., qui était une entreprise fondée par Andy Rubin. Et donc, ils annoncent officiellement Android. Et là, moi, dans mon petit coin, en fin d'études d'école de commerce, j'avais déjà plusieurs sites, dont un qui parlait de technologie, un qui parlait d'animation japonaise. Donc, je me dis... Android, j'y vois beaucoup plus qu'un simple OS mobile, j'y vois tout un écosystème, et donc j'aimerais bien créer un blog de veille spécialisé autour de cette technologie. De l'autre côté, on a Baptiste et Pierre-Olivier, donc Pierre-Olivier que vous connaissez tous.
Et Baptiste Michaud.
Et Baptiste Michaud, qui étaient tous les deux dans une promotion de l'ECE, l'École Centrale d'Électronique, qui est une école d'ingénieurs, qui ont eu la même idée que moi, avec un blog de veille plus orienté technique. Donc, le mien était plus orienté marché. Et donc, on lance notre blog. Et un mois et demi plus tard, on se rencontre. Donc, on était plutôt en décembre 2007. Et on se dit, putain, vous avez l'air vraiment chouette. est-ce que ça serait pas intéressant, finalement, vu nos profils qui sont très complémentaires, de créer un blog de veille, commun. Et ça s'appelait Frandroid. Donc, Frandroid est né entre décembre 2007 et janvier 2008. Et ça a occupé nos soirées et nos week-ends. Donc, c'était pendant un an un travail un peu solitaire, dans le sens où il n'y avait aucun produit sur le marché sous Android. C'était de la veille générale, qui est de la veille technique. On avait les premiers prototypes. On avait le kit de développement orienté pour les développeurs, qui était bien entendu... au cœur des discussions de Google qui faisait son évangélisation, parce que l'idée était quand même de créer tout un écosystème. Mmh. Et nous, on s'est intéressé à ça. On a eu les premières expérimentations de la part des opérateurs. On a eu les premières rumeurs autour des premiers devices. Et donc, un an plus tard, HTC a annoncé son T-Mobile G1, qui est sorti sous, je ne sais plus quel nom en France. HTC, alors c'était pas HTC.
Je pourrais pas t'aider du tout. C'était sans filet.
C'est pas HTC Magic, c'était le deuxième, c'est HTC quelque chose. Et du coup, à partir de ce moment-là, le grand public s'est intéressé au système. Et là, l'audience a continué à augmenter. Donc, on a au fur et à mesure transformé ce blog de veille en communauté. Et jusqu'en 2010, où le site a commencé à rapporter un peu de sous. Et donc, pour pouvoir récupérer ces sous de façon légale, on a eu une grosse réflexion, c'était notre première vraie réflexion qui était est-ce qu'on crée une association, une entreprise ? Ouais. Bon, le contexte à l'époque était assez simple, on n'avait aucune ambition d'en faire notre activité à plein temps. Baptiste était parti chez Orange au Japon faire de la veille sur les technologies. Il y avait beaucoup de technologies, mais c'était principalement tout ce qui est réalité virtuelle. Mmh. Donc, c'était entre 2008 et 2010. Et Pierre-Olivier était à Montréal. Moi, j'étais à Paris et je travaillais aussi chez un opérateur fouetté, un peu comme Baptiste. Et j'étais aussi dans un service de R&D innovation, mais plutôt côté marketing et mobile. Mmh. Et donc, on crée Humanoïd en 2010. Et on continue à le gérer à distance. Et depuis ce moment-là, on prend des rédacteurs pigistes qui sont donc des freelances que l'on paye. Donc ça commence à avoir une activité intéressante parce que elle faisait déjà pas vivre parce que c'était des freelances, mais elle complétait bien les revenus de 5-6 personnes. Mmh. Et bon, Pierre-Olivier, Baptiste et moi, on avait déjà des revenus qui étaient suffisants sur notre travail principal, donc on comptait pas sur ces revenus-là. Du coup, ce que la boîte a fait, c'est qu'elle a accumulé une petite trésorerie, qui fait que Baptiste, quand il a fini sa mission chez Orange, au Japon, il commence à discuter avec moi, il me dit « Bon Ulrich, je vais rentrer à Paris, qu'est-ce que t'en penses ?» Moi, à ce moment-là, j'étais directeur de marketing d'une boîte qui s'appelle Surikite, qui est le groupe Mozu, qui était une régie mobile, voilà, spécialisée dans le mobile. Donc moi, je travaillais 60 heures par semaine sur le développement de toute une régie, parce qu'à l'époque, le mobile était en train d'exploser. Donc ça s'appelle le marketing mobile. Mmh. Et moi, j'ai dit, écoute, je suis en train de m'effuser pour quelqu'un d'autre. Donc je préférais m'épuiser pour nous, ça serait peut-être plus intéressant. Et à ce moment-là, on décide du coup de passer à plein temps. On était début 2012.
Ok.
Voilà. On a commencé dans un petit local à Montrouge. Ouais. Baptiste, à chaque fois qu'il raconte, il dit qu'il y avait pas de fenêtres, mais il y avait des fenêtres.
C'est les mauvais souvenirs qu'il a de l'époque. Voilà.
En tout cas, les gens qui venaient nous rendre visite, ils voulaient nous sortir de là, tu vois, à chaque fois. Et on a eu nos deux premiers employés, dont un certain Edouard Marquez qui est assez connu dans l'écosystème Android. Ça, il a beaucoup écrit sur Android, il s'appelait Geek, G123K, mmh. Très connu dans la communauté Android. Et puis, voilà, on a développé le truc, on a déménagé dans le sentier à Paris, on avait notre premier 80 mètres carrés de bureau. Et ensuite, après, il y a un an, on a déménagé à Strasbourg-Saint-Denis, on est passé à 200 mètres carrés de bureau, et donc aujourd'hui, on a 15 personnes à plein temps quand même. On a 5 journalistes sur Frandroid qui travaillent à plein temps en CDI sur de la rédaction, principalement des reportages, etc., du test. On a un community manager, on appelle ça un gestionnaire de communauté parce que ça fait plaisir à PO. Il a raison. Il a raison parce que... Parce que la définition n'est pas la même à l'écouter.
J'avoue. Et la différence n'est pas forcément évidente pour le commun des mortels, mais il y a des vraies nuances, effectivement.
Oui, il y a des vraies nuances. C'est un gros travail d'animation, de création de contenu social. Donc, c'est nous une position assez importante dans l'entreprise. On a toute une équipe technique avec 3 développeurs et un DA junior qui est à cheval entre la rédaction et la technique. Donc ça, c'est vraiment important, c'est quelque chose de nouveau. Et on a un début d'équipe marketing qui s'occupe de tout ce qui est opération spéciale et tout. Toute la commercialisation est externalisée. Donc j'ai dit 15 parce que depuis qu'on a lancé Numérama, on a une nouvelle équipe de 4 journalistes qui est indépendante et qui est autonome par rapport à l'équipe Frandroid.
D'accord.
De rédaction Frandroid.
Du coup, quand tu, parce que je fais une petite parenthèse vu ce que tu déroules, parce que je me passionne dans d'autres activités podcastiques autour du changement de vie, du bien-être à titre personnel, etc. Quand tu quittes un boulot ouais. dans lequel t'es impliqué pour te lancer, on va dire à ton compte, même si t'es pas tout seul, mais en tout cas en tant qu'entrepreneur, j'imagine que tu perds peut-être un peu en niveau de qualité de vie, enfin pas en qualité de vie d'ailleurs, mais
ouais,
il y a un arbitrage à faire.
Ouais, les revenus ont baissé. J'ai toujours pas atteint les revenus que j'avais chez Orange.
Ouais.
Mais mes revenus aujourd'hui sont confortables. J'ai même pu devenir propriétaire. Donc c'était vraiment pas évident en tant qu'entrepreneur. J'ai eu beaucoup d'embûches, mais j'ai réussi à le faire. Ça n'a pas été ça parce que, en fait, les 2-3 ans de fonctionnement à vide de la société Humanoid nous a permis d'accumuler un peu de trésorerie qui fait que Baptiste et moi, dès le début, on a pu avoir un salaire. Ce qui est quand même beaucoup plus confortable que beaucoup d'autres entrepreneurs qui partent de zéro.
Tout à fait. Ouais.
Mais ce qu'on n'avait pas calculé, c'est que psychologiquement, ça a été très difficile parce que j'avais beau avoir beaucoup de responsabilités avant. En tant que gérant, c'est vraiment, tant qu'on n'a pas vécu ça, c'est très difficile à expliquer ce qu'on peut ressentir. Moi, j'ai eu, pas une dépression, mais j'ai eu des moments, c'est vraiment du vague à l'âme, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut passer d'un sentiment à l'autre, d'une émotion à l'autre. C'est des moments très difficiles à expliquer, quoi.
Comment t'as fait pour gérer ça d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des trucs dont tu te rappelles qui t'ont permis de gérer ça ou pas?
Je sais pas. Heureusement que j'avais un associé, Baptiste. On a beaucoup échangé ensemble. On échange nos inquiétudes, on échange nos peurs, on échange aussi nos idées. Ça, c'est très important. Pierre-Olivier est ici une oreille hyper importante dans le sens où, même à distance, il nous a rangé ensuite, mais même à distance, on parlait beaucoup. Mais heureusement que j'avais des associés. Je pense que les personnes seules dans ce genre de situation, c'est vraiment pas évident. Surtout que j'ai pas énormément d'amis entrepreneurs, donc c'est bien d'échanger nos états d'âme avec avec des personnes qui n'ont pas été entrepreneurs, mais on attend aussi un retour quand on échange quelque chose, et quelqu'un qui a du vécu, c'est beaucoup plus sympa de partager une expérience et pouvoir se rassurer, pouvoir passer certains doutes, mais c'est pas évident. Je pense que j'aurais été dans d'autres secteurs, ça aurait été plus évident. Les médias, c'était pas le plus évident, mais en même temps, j'ai envie de dire, quand c'est trop facile, il y a trop de monde il y a trop de monde, du coup, c'est un peu difficile de se différencier.
C'est une juste osmose, en fait. C'est une juste osmose. Ouais. Écoute, maintenant, ceux qui te connaissaient pas et qui connaissaient pas Humanoïdes sont calés, on est tous au même niveau. Je te propose qu'on se plonge un petit peu plus sur Numérama. Okay. Je pense que c'est un petit peu l'aboutissement de tout ton projet, de tout ton travail, du travail que vous avez mené ensemble. En gros, 5 rubriques, tech, politique, pop culture, business et science. J'invente pas et je l'ai pas appris par cœur, j'ai juste le header sous les yeux. Il y a un élément qui transparaît derrière ce que vous communiquez autour de la nouvelle version de Numérama, j'allais dire. C'est l'interaction, les échanges, et il y a un terme qui vous est cher, c'est le terme de discussion. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la philosophie qu'il y a autour de cet échange avec les internautes ?
Ouais, c'est aujourd'hui techniquement pas l'aboutissement de nos réflexions, mais c'est une première phase qui est intéressante. En gros, on s'est dit, ça c'est simple, j'ai écrit un article qui s'appelle sur Medium « Inventer l'ère post-commentaire ». C'est hyper ambitieux. Et un poil prétentieux, c'est vrai. Mais c'est parti d'un constat. En gros, on s'est dit, les commentaires sur Internet, c'est épouvantable. Dans le sens où les médias, soit ils veulent les ignorer, soit les cacher, soit les déporter sur d'autres plateformes comme Facebook, ou au pire, les supprimer. Il y a des médias qui ont décidé de supprimer les commentaires parce qu'ils pouvaient pas gérer ça. Et on s'est dit, en fait, c'est considéré comme un bug. Du coup, l'idée, c'est d'essayer de fixer ça. Et pour fixer ça, on a essayé de faire un travail de marketing, j'allais dire, mais en fait avoir une vraie réflexion, une vraie étude de marché avec un benchmark en disant qu'est-ce qui marche et pourquoi ça marche. Et ce qu'on a remarqué, c'est que il y avait des communautés comme Reddit, Quora, Stack Overflow, Metafilter, etc., qui avaient réussi à créer de vraies communautés avec des vrais échanges, avec une vraie valeur ajoutée. Presque finalement des gens capables d'échanger des vraies histoires, et ça faisait et on s'est dit, si on arrive à comprendre comment ça fonctionne, etc., on va pouvoir le reproduire sur Numérama et ça sera un vrai argument, ouais, au lieu d'essayer de cacher ça. Et puis c'est une réflexion qui est à la fois technique, mais à la fois éditorial, mais aussi tourner autour de toute l'identité et les valeurs de la marque média. Et on s'est dit, fonder une communauté comme ça, c'est pas évident. Sur Frandweed, on l'a réussi autour d'une passion, autour d'un écosystème. Mais quand on est sur une thématique encore plus large, ça devient de plus en plus compliqué de gérer ça, surtout quand on traite de politique, etc. C'est des sujets sensibles qui amènent ce qu'on nous a dit. C'est là où on a remarqué que c'était touchy, parce qu'on se dit quand même, il y a des trolls dans la tech. On trouve ça épouvantable, mais ça n'a rien à voir avec les trolls dans la politique, quoi.
Ouais, tu m'étonnes.
C'est des mecs qui sont capables de t'appeler la nuit, hein, tu vois.
Oui, parce qu'il y a quand même un bond que vous faites, vous, côté humanoïde, mais évidemment, l'équipe s'étoffe par rapport à ça, c'est que on passe d'un sujet qui peut paraître peut-être un peu léger, qui est, on va dire, la tech et un univers, la communauté Android, à quand même des sujets qui touchent pour le coup tout le monde, alors toujours sans doute sous l'angle un peu technique et qui sera à même de parler sans doute à toute une partie de cette même communauté, mais on aborde quand même un domaine tout à fait différent. Est-ce que ça fout pas un peu les boules de se plonger dans la politique dans la politique,
si, ça fout les boules.
Je me comprends, vous faites pas de la politique directement, mais de parler en tout cas de politique, ouais.
Bah oui, ça fout les boules. Au début, ça fout les boules. Guillaume, c'est quelqu'un d'engagé. Et presque militant, même si d'un point de vue journaliste, il est engagé. Ouais. Engagé, c'est parce qu'en gros, il a des valeurs qui lui sont chères, comme la liberté d'expression, surtout la liberté d'expression. Et donc la liberté d'expression, bien sûr, c'est toutes les libertés numériques, j'ai envie de dire.
Ouais.
C'est quelque chose qui était vraiment un cheval de bataille pour lui. Et il a été connu, entre autres, pour Adopi, pour la loi sur le renseignement, etc., etc., etc. C'est des sujets qui lui sont chers. Et c'est vrai que à la fin, par exemple, ils se sont retrouvés avec seulement deux rédacteurs parce que c'est devenu assez difficile pour lui économiquement. Et du coup, quand tu as deux rédacteurs et que tu as des sujets comme ça qui sont hyper importants pour lui, tout de suite, il est obligé de réduire le spectre des univers traités. Il est obligé. Hein, parce que quand il veut aller à fond dans un sujet comme la loi sur l'enseignement, bah, entendu, il a plus de temps pour traiter l'économie, beaucoup moins pour la tech. Donc effectivement, ça faisait peur. Mais c'est pour ça que Guillaume, on a eu une vraie réflexion, c'est-à-dire qu'on s'est dit, si on a tant d'ambition, il faut vraiment qu'on mette les moyens pour y arriver. Et c'est pas simplement en recrutant une équipe de plumes aguerrie, etc. C'est aussi en faisant en sorte qu'on ait un média qui soit rentable. Et c'est là aussi, ça fait peur, parce que c'est difficile.
Alors, ben justement, on y arrive. Alors moi, j'ai un ennemi que je vais habiller en noir et qui veut te regarder méchamment avec sa mitraillette du coin de l'œil par rapport à votre projet, mais qui doit être le même ennemi de plein de supports médias sur le web. C'est évidemment, tu les as cités tout à l'heure, et j'imagine qu'il y en a d'autres, les adblock. Moi-même, j'ai toujours eu du mal à me faire un avis parce que je suis partagé entre... On peut le rappeler, hein, pour ceux qui connaissent pas les adblocks, c'est ces petits programmes que vous rajoutez à votre navigateur et qui vont tout simplement, purement et simplement bloquer les pubs, donc qui vont accélérer votre connexion.
Pas que les pubs.
Qui vont pas bloquer que les pubs d'ailleurs. Mais en tout cas, ça va vous fluidifier votre connexion et sans doute votre expérience de consultation de site web sera, on va dire, un peu meilleure, ou très nettement meilleure. Donc à titre, en tant que consommateur, j'ai tendance à être assez affirmatif là-dessus. Et en même temps, d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de dire, ouais, mais c'est quand même ce qui permet de faire vivre les médias, et finalement, ça s'apparente un peu à du piratage. Donc je t'avoue que je suis un petit peu dans une forme de dichotomie sur le sujet.
Pareil, je suis un peu schizophrène. Mais...
Alors toi d'autant plus, j'imagine. Ouais, comment vous abordez ça et comment vous osez affirmer, relancer en tout cas un média web dans ce contexte-là?
Ouais, c'est pas évident dans le sens où... voilà. Ce qui s'est passé, pendant longtemps, j'étais dans une espèce d'un déni, c'est-à-dire que je comprenais pas les gens qui utilisaient Adblock, et pour moi, ils étaient en train de tuer le web. Ouais. Tuer le web dans le sens où on est en train de tuer tout le modèle économique qui a fait qu'aujourd'hui, on a quand même du contenu sur le web. On peut juger s'il est de qualité ou pas, mais il y a quand même des médias et il y a des journalistes qui en vivent, et c'est des journalistes qui sont talentueux. Sauf que, oui, heureusement, il y a des modèles alternatifs. Adblock, c'est un problème dans le sens où ça a accéléré ces derniers temps. Mmh. Avant, c'était un problème qui touchait 15-20% des internautes. C'est pas négligeable, mais c'est comme si on enlevait 15-20% de ton chiffre d'affaires. C'est pas non plus la mort. Mmh. Là, je peux te donner une valeur un peu en exclu. Sur Numérama, sur la journée d'hier, on avait 42% d'adblock.
Ouais, c'est énorme. Hein.
Ça commence à être super touchy. Mmh. Sur le desktop. Hein. Mmh. Que sur le desktop, que sur un ordinateur, un écran dans un
ça va vite suivre sur mobile quand on voit ce que propose Apple.
Ça devient encore plus problématique. C'est pour ça que MacG, par exemple, a signé. Allumer son signal d'alarme, c'est que bon, quand t'as 80% de tes visiteurs qui sont sur Safari, voilà. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui c'est un risque. Nous, on a des réponses à apporter parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais bon, on a un gros focus sur la qualité de contenu. Mmh. La qualité de contenu, c'est un coût qui est énorme. On parle de nos références, on n'a pas envie non plus d'être assimilé à un The Verge-like, mais c'est une de nos références. Mmh. C'est pas le seul, il y a Fast Company, Wired, etc., etc. Il y en a beaucoup de presse anglophone. Mais The Verge, je suis pas sûr qu'ils soient rentables. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que ça leur a coûté des millions de dollars de lancer ça. Mmh. Et ça coûte très très cher de le faire vivre, parce qu'ils ont 30 à 40 journalistes qui sont des plumes aguerries qui doivent coûter une fortune. Ils ont un énorme coût en production vidéo, en reportage, en couverture. Et bon, bien entendu, nous, on n'a pas du tout les mêmes frais. On essaye d'y aller assez intelligemment, c'est-à-dire qu'on peut pas s'amuser à prendre des risques d'un point de vue financier. Et puis, on veut éviter de passer par un levée de fonds pour rester complètement indépendant. Mmh. Ça, c'est un choix de notre part. Du coup, effectivement, on a des réflexions. On veut par contre du qualité, de la qualité de contenu. Le qualité de contenu, elle va venir, c'est comment la financer, en gros. Pour la financer, on a 4 points. On a le display, qui touche quand même 58% des internautes.
Donc c'est la pub, hein, pour ceux qui connaissent pas et qui déduisent des 42%.
C'est de la bannière classique, c'est-à-dire que c'est du pavé, c'est de la méga banne.
Qui peut être lui-même plus ou moins quali au passage.
Oui.
Selon les régies, ouais. Selon les choix.
Ah, après, on pourra parler un petit peu de régie, mais effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que un site comme Frandroid ou Numérama est vendu par une régie externe. Parce que c'est des sites qui sont pas dans des grands groupes et qui sont pas assez gros pour pouvoir avoir leur régie interne. Du coup, nous, ce qui se passe sur Frandroid, c'est ce qu'on a fait il y a un an et demi. On fait un appel d'offres dans lequel on audite des régies. Parmi ces régies, on en a choisi une qui est spécialisée dans la tech. Et cette régie, elle est en relation avec des annonceurs et avec des agences. Donc les agences vont mandater la régie régulièrement dès qu'ils ont des appels d'offres de la part des annonceurs. Donc par exemple, un constructeur de téléphone va tous les trimestres lui envoyer un brief en disant « Bon voilà, moi j'ai tant de budget, il faut que je touche telle cible, est-ce que tu peux me proposer une mécanique de visibilité, etc. » En fonction des objectifs de la campagne, c'est-à-dire des fois je dois générer de la vente, je dois avoir des objectifs de visibilité, etc. etc. De temps en temps, il y a une relation directe qui se fait avec l'annonceur, donc là ça permet de faire des choses un peu plus poussées. Et ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de ton audience, elle doit être suffisamment importante. Ça dépend de la notoriété de ta marque média, elle doit être suffisamment importante. Ça dépend aussi des valeurs que ton média va véhiculer. Par exemple, sur Frandroid, on véhicule des valeurs comme l'expertise, comme la communauté, etc. Donc il y a des marques qui vont être intéressées par ces valeurs, ils vont vouloir s'y attacher, en fait, tout simplement. Et aussi par les services que tu peux proposer, par exemple, sur Frandroid. On a 3 marques qui vont une fois par semaine passer une demi-journée à répondre aux gens sur le forum, donc avec leur nom. Donc ça, c'est des services que tu peux proposer à certains annonceurs.
Donc c'est le premier bloc, si je ne me trompe pas.
Le premier brick, c'est ce qu'on appelle le display.
D'accord, oui, pardon.
Ça peut se faire de différentes façons. Ouais. Soit tu fais un contact direct avec l'annonceur, c'est très rare, mais c'est très intéressant. Soit tu le fais via une agence, soit tu branches, que tu appelles... ce que tu appelles les... j'ai un trou des bois. J'ai un énorme trou des bois, désolé.
C'est pas grave, t'en fais
c'est
pas.
C'est en gros des algorithmes qui vont mettre en place une place de marché automatisée.
Alex.
C'est pas des ADEX, ouais, c'est des ADEX, mais c'est de la... Oh là là, j'ai un trou de mémoire énorme.
Bon, c'est pas grave, on montrera ton embarras sans faire de montage.
Non, mais là, les gens disent...
Sauf si vous entendez ça, on l'aura recomplété.
Par jour, c'est quelqu'un. Je l'écris aussi dans des emails.
Il n'y a pas de soucis. Ça va te revenir tout à l'heure et tu reviendras dessus, t'en fais pas.
Pas de souci. Et du coup, là, c'est une partie de notre inventaire qui est automatisée en fonction de ce qui reste. Voilà. La deuxième façon de gagner de l'argent, c'est faire des opérations spéciales. Comme j'ai dit, il y a des marques qui sont intéressées par les valeurs qu'on véhicule, notre audience, etc. Donc là, notre spécialisation, ils vont vouloir mettre en place des opérations spéciales qui peut être un simple jeu concours, un corner, c'est-à-dire une page dédiée à une marque auquel on va mettre un peu de visibilité en l'intégrant dans le header, etc. Derrière, on va mettre une jolie fiche produit, des articles, etc. Donc là, on peut imaginer plein d'opérations spéciales. Ça peut même être de l'événementiel. C'est-à-dire que, en gros, tu vas essayer de travailler un peu avec la marque pour pouvoir lui offrir de la visibilité supplémentaire par rapport à un espace de pub classique. Tu as aussi un troisième volet pour nous qui est important et qu'on a beaucoup développé sur Frandroid. Moi, j'appelle le volet e-commerce. C'est pas vraiment du e-commerce. C'est-à-dire qu'on va pas vendre directement des produits. C'est-à-dire qu'en gros, on va mettre en place une plateforme d'affiliation. Donc ça passe par des partenariats qu'on a avec les revendeurs comme la Fnac, Amazon, etc. Et derrière, on va faire en sorte de pouvoir générer des ventes. Sur Frandroid, c'est plutôt, je veux pas envie de dire simple, mais c'est plutôt
logique. Ça coule de source, ouais, ça va dans le sens du...
C'est pas de la comparaison de prix parce que ça marche plus depuis que Google en fait. C'est des choses un peu plus intelligentes, c'est-à-dire je fais un test d'un produit, ça c'est pareil, assez logique. Et à la fin du test, j'ai un buy button, c'est-à-dire j'ai un bouton... acheter le produit, etc. Donc là, tu vas générer une vente vers un revendeur et si la vente se fait, tu reçois un pourcentage de la vente. entre 1% et 10% en fonction du produit, en fonction du revendeur. Et donc ça, sur Frondroid, ça devient un pilier intéressant parce qu'il nous rend plus indépendants des annonceurs et des agences, etc. Et puis, il est moins lié, j'ai envie de dire, au marché de la publicité. Par contre, il est lié à la périodicité, c'est-à-dire que ça marche très bien en fin d'année, ça marche un peu moins à l'été, quoi. Comme les campagnes de pub, j'ai envie de dire. Ouais. Mais il est important parce qu'il vient pas du tout parasiter ce que tu peux, les espaces de pub, etc. Il vient vraiment compléter le tout. Et surtout, quand tu le fais intelligemment, c'est bien intégré et c'est efficace. C'est-à-dire, tu vas essayer, en gros, c'est vraiment quasiment du A/B testing. C'est-à-dire, tu vas placer un bouton là, tu vas revoir son design, tu vas changer sa couleur, tu vas voir quelle information tu peux mettre dessus, tu vas voir quel partenariat tu peux faire avec quel revendeur en fonction aussi de ta cible, en fonction de ton audience. Et avec ça, tu vas pouvoir optimiser la génération de ventes. Nous, on a fait le choix de travailler qu'avec des revendeurs de qualité. On sait que les gens, de toute façon, c'est très important qu'il y ait une confiance dans nos revendeurs. Du coup, on travaille principalement avec voilà, Amazon, la Fnac, Cdiscount, etc., etc. Mm-hmm. Encore que Cdiscount, on fait attention quand même parce qu'on a remarqué que, par exemple, les gens étaient très contents des retours avec Amazon et la Fnac. Du coup, on a tendance, nous, même à privilégier cela, même s'ils n'ont pas le taux de commission le plus intéressant.
Ouais, je comprends l'expérience. L'expérience du consommateur.
Du coup, on a plus tendance à privilégier le commerçant qui apporte le plus de satisfaction au commerçant qui a la plus grosse affiliation ou au commerçant qui a le prix le plus bas.
Ouais, ok.
C'était important pour nous aussi qu'il y ait ça, et ça marche. Et le quatrième pilier, c'est le premium.
Ouais,
donc il y a un cinquième pilier aussi. J'ai pas vu. Le premium, pour le moment, sur Frondroid, on le voit pas du tout. Dans le sens où on est un site qui est orienté autour de produits et on pense pas que les gens, à part si on va leur apporter un contenu à valeur ajoutée, peut-être des tutoriaux,
des guides,
etc. On appelle ça les how-to, les do-it-yourself, etc. Ouais. Ça peut le faire. Néanmoins, on commence doucement à le faire et avant qu'on ait une top qualité de tutoriaux, on ne compte pas le faire. On peut le faire aussi avec des émissions, mais pareil, elles sont toujours orientées autour des produits. Moi, je préfère monétiser ces émissions en encourageant les gens à cliquer sur un lien d'affiliation pour faire leur achat s'ils ont envie d'acheter ce produit. Ou en faisant sponsoriser l'émission par un annonceur, ce qui est aussi intéressant à faire. Sur Numérama, pour le coup, le premium se colle beaucoup mieux. Dans le sens où on va pouvoir créer des vrais reportages, des sujets de fond. On peut le faire sur Frondroid aussi, mais de façon beaucoup plus rare. Mais sur Numérama, on va essayer de le faire régulièrement. Donc, on appelle ça des longs formats. Ça va être des lectures qui vont de 15 à 40 minutes avec des vidéos hyper léchées derrière. C'est vraiment des contenus très chers à produire. Pour pouvoir les financer, ces contenus, on a trois façons de faire. Soit on le finance avec les gains qu'on a tout ce qu'on appelle le display, donc les bannières classiques, etc. Mais bon, on doit déjà payer nos journalistes et tous les frais de fonctionnement, donc ces revenus-là, on compte pas trop sur eux pour pouvoir financer ces reportages. Soit on a deux autres façons de les faire financer. La première façon, c'est comment est-ce qu'on peut rendre gratuit ces contenus? Parce que c'est quand même important d'avoir un web gratuit pour moi, c'est quand même très important même. Alors, pour rendre gratuit ces contenus, on a une réflexion avec l'équipe, c'est en gros, pourquoi pas soumettre à une marque un contenu qui est déjà écrit. C'est-à-dire, par exemple, je vais voir Sony, on a écrit un énorme reportage hyper quali sur la robotique au Japon, qui parle pas spécialement de Sony, hein, justement, il parle pas de Sony, et on va demander, on fait lire ce reportage à Sony, ce long papier à Sony, et on lui dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, à ce moment-là, on leur dit « Est-ce que vous voulez sponsoriser ?» C'est-à-dire, est-ce que vous voulez faire en sorte que ce papier puisse être présenté également par vous ? Mm-hmm. C'est-à-dire, et du coup, on a commencé à le faire, et on a remarqué que les marques étaient intéressées dans le sens où ça leur plaisait finalement d'apposer leur marque à un papier de qualité qui va véhiculer des valeurs importantes pour eux. Dans la robotique, on parle d'innovation, on parle etc., d'avancées technologiques, etc. C'est quelque chose d'hyper positif. Si on voit que Sony a aidé au financement de ce papier-là, bah finalement, Sony récupère une partie du positif qui est ressorti de ce papier-là. Mais pour ça, il faut être hyper clean et hyper transparent. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que tous ces papiers-là, ils n'aient pas été écrits justement pour Sony. Il ne faut pas qu'on tombe dans le brand content, le contenu de marque, ni dans le native advertising comme certains le font. C'est-à-dire que c'est pas du contenu qu'on a créé pour Sony, c'est du contenu qu'on a proposé à Sony. Et si Sony ne veut pas le sponsoriser, on l'a juste simplement à demander à la communauté de le faire. Soit ils le font sous forme de don, comme, comme tu le fais toi sur Tipeee, soit ils le font sous forme d'un abonnement premium. Là, on propose ce contenu aux abonnés. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est soit le faire sponsoriser par une marque, soit le financer nous-mêmes avec nos revenus tiers, soit le mettre simplement dans une offre premium qui ne sera pas lancée tout de suite, mais qui sera lancée dans quelques mois quand on aura un rendement, quand on aura fait fonctionner la machine, j'ai envie de dire, correctement, qu'on aura séduit quelques lecteurs. Là, on pourra lancer une offre premium dans laquelle ils auront accès en exclu, à des contenus premium. Ça sera une petite partie de ce que propose le site, mais ça sera vraiment des contenus vraiment de qualité, des longs formats de qualité. Voilà à peu près les réflexions qu'on a eues sur la monétisation.
Et, en sachant que les différentes optiques que tu donnes à la fin sur les formats enrichis, que je qualifie moi plus de contenu froid, mais ce qui est sans doute pas très malin parce qu'on peut malgré tout réagir à l'actu de manière plus éditoriale.
Non, tu peux appeler ça long format, mais...
Alors, en tout cas, cette façon de financer les longs formats, c'est vous n'allez pas faire, j'imagine, un mix des trois possibilités que tu cites. J'imagine que vous allez retenir une des trois mécaniques de monétisation et la systématiser.
Au moins des deux. Je pense que ce qu'on va essayer de retenir, ça va être le premium et le sponsoring. Ou c'est même pas du sponsoring, les marques, est-ce qu'on peut appeler ça du mécénat en fait. C'est du on va retenir, je pense, le mécénat pour certains papiers et les autres, ça sera du papier qui sera dans l'offre premium. Voilà. Mais une partie du papier sera disponible gratuitement. C'est-à-dire que s'il y a 4 chapitres, on aura peut-être un chapitre gratuit qui correspondra à, quand même à 5-10 minutes de lecture.
Oui, ce qui n'est pas qu'une partie pour attiser et susciter l'envie de lire la suite, mais qui donne quand même un premier niveau d'info. Quoi.
C'est comme si on avait lu un tome d'une histoire. Quoi.
Tu sais, c'est quand même super intéressant ce que tu évoques par rapport à finalement l'économie d'un média web. Parce que nous qui parlons de tech et qui avons un petit peu de recul et qui sommes, je pense, des consommateurs avertis, on a toujours, tu sais, ce regard un peu en biais de l'industrie, par exemple, musicale, mais il y en aurait plein d'autres qu'on pourrait citer, où on se dit « Ah là là, ils auraient dû se douter qu'ils se casseraient la gueule, c'était quand même évident la façon dont ça tournait les choses, ils ne se sont pas réinventés. » Et on dit tout le temps, tu sais, cette réaction qu'on a de dire « c'est des économies qui ne se sont pas réinventées. » Et finalement, quand on est, alors je ne me mets pas vraiment dedans, parce que c'est pas du tout professionnel, c'est une activité amateur que j'ai, mais j'imagine quand on se met à ta place, on peut difficilement critiquer ce qui se passe aujourd'hui en termes d'économie sur un média web et pas se dire bah, c'est à mon tour, c'est à moi de me réinventer quoi.
Bah, c'est très disruptif en fait, dans le sens où c'est un mot que j'utilise à bon escient parce que j'ai pas envie d'entrer dans les termes de marketeux, c'est un mot que j'utilise depuis longtemps mais j'essaie de l'utiliser intelligemment, dans le sens où c'est disruptif, c'est-à-dire que tu vas finalement casser un morceau du marché. Le reconstruire totalement. Quand je te parle de la publicité, aujourd'hui, la publicité, ça fonctionne de façon assez classique. C'est-à-dire que tu as des espaces de publicité qui sont mis à disposition par un éditeur, vendus par une régie, achetés par une agence pour un annonceur. Voilà. Et ça marche comme ça. Quand les adblocks se sont installés, et parce que les annonceurs ont mis une grosse pression sur les agences, qui ont mis une grosse pression sur les régies, qui ont mis une grosse pression sur les éditeurs, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vraie dérive dans l'utilisation des formats. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des choses, je veux dire, complètement déjà hors cible des fois, complètement pas quali, qui avaient des objectifs de clics, des objectifs de génération de vente et du coup ont encouragé l'utilisation de techniques de communication de marketing qui sont complètement à proscrire. Et il y a eu des choses qui vont très loin jusqu'à du faux native ad dans lequel on a même pu à dissocier si c'est un article qui fait partie d'un contenu d'un média ou si c'est un article sponsorisé.
Et ça, le simple fait d'engendrer le doute, c'est terrible.
Ouais, et ça, c'est venu pourquoi ? C'est venu aussi parce que c'est pas la faute c'est pas la faute des lecteurs, mais voilà, les annonceurs, ils ont du budget à dépenser, les agences, ils ont Ils ont des objectifs à atteindre et s'ils n'arrivent pas à l'atteindre avec des bannières classiques parce qu'ils n'arrivent plus à en afficher autant qu'ils devraient le faire à cause du adblock ou à cause d'autres choses, et bah du coup ils essayent de trouver d'autres façons de générer des ventes, d'autres façons de générer des clics, et du coup on arrive à des dérives complètement absurdes qui du coup c'est une espèce de cercle infernal, tu vois. On arrive à avoir 40 à 50% de taux d'installation de AdBlock. Et de l'autre côté, on a des formats dégueulasses sur le mobile où on se prend des interstitiels, c'est-à-dire des pages, des plein écrans avec des vidéos qui se lancent dans tous les sens.
Où la croix n'est pas cliquable.
Ouais, jusqu'à des trucs complètement absurdes où on a même des redirections automatiques sur l'App Store ou le Google Play. Dès lors qu'on va sur une page web, ça devient complètement absurde. Et donc ça demande de faire du disruptif, c'est-à-dire qu'il faut revoir totalement la façon dont un éditeur, une régie, une agence et un annonceur travaillent. Et là, c'est un gros travail où, par exemple, c'est notre travail qu'on doit faire sur Numerama, c'est pas évident. C'est un travail où on doit faire en sorte que l'annonceur nous fasse confiance. Donc il y a toute une remise en cause de la confiance, il y a toute une façon de travailler différente. Là, quand je te dis que je dois aller voir un annonceur en disant « Écoute, dépense pas ton argent dans une campagne de display, de toute façon elle va toucher que 52% de non, 58% de mes lecteurs et en plus les gens vont pas cliquer dessus. Mais à la place, lis ces trois papiers, s'il y en intéresse un, s'il y en a un qui t'intéresse, honnêtement, sponsorise-le quoi. Mets un petit budget dessus, nous ça va nous financer le reportage et on sera bien content de le proposer à la communauté.
Et puis, il y a quand même quelque chose qui montre, alors peut-être que ça existe sur d'autres sites, hein, vous l'avez peut-être pas inventé, j'en sais rien, tu vas me le dire, mais ouais. Moi je l'avais pas vu avant, mais il y a des clins d'œil qui montrent et qui jouent une forme de connivence dans cette prise de conscience de l'économie de l'adblock, c'est que quand on va sur numerama.com avec un adblock, on a des petits clins d'œil qui nous montrent que, ben voilà, vous êtes au courant, quoi.
Ouais, on a voulu faire ça de façon amusée, mais...
C'est très malin parce qu'il y a pas de reproche derrière.
Mais aujourd'hui, je suis pas du tout content de ce qu'on propose sur Numerama dans le sens où on a encore trop de trackers dans tous les sens. C'est la régie, hein. C'est un gros travail. En gros, quand je te dis que c'est pas évident de faire autrement, c'est qu'on doit discuter avec la régie, qui doit discuter avec l'agence, qui doit discuter avec l'annonceur. Et c'est des réunions qui sont même pas triparties, c'est-à-dire qu'il y a quatre acteurs dans la discussion et des fois même plus. Dans le sens où on doit leur dire, il faut moins de trackers. Je veux dire, moi je suis pas content sur Numerama, ça c'est un de mes objectifs, c'est-à-dire qu'on doit quasiment enlever tous les trackers possibles. Et ça c'est en gros l'annonceur qui doit nous faire confiance, c'est-à-dire que l'annonceur est en train de te dire, on est en train de lui dire, on va avoir moins de moyens de contrôle de diffusion des campagnes de publicité. Par contre, fais-nous confiance, c'est-à-dire que t'inquiète pas, elles seront bien diffusées, elles vont bien toucher la cible, et d'ailleurs les gens seront peut-être même plus agréablement surpris et ont plus de confiance d'être exposé à ta campagne. Et là, on n'en est pas encore là, c'est-à-dire qu'on est en train de négocier pour enlever du tracker, là.
C'est tout le travail qu'on n'imagine pas qui est derrière un site édito comme ça. On s'imagine qu'il suffit d'installer WordPress avec un beau thème et de mettre du contenu. Je te propose qu'on aborde deux aspects rapidement ensemble, Ulrich. Un premier aspect un peu, comment dire, format et même, j'allais dire, outil. Vous avez utilisé Discourse pour les commentaires, les discussions. J'ose pas dire les forums, du coup. Pourquoi Discourse et comment est-ce que vous avez mené votre réflexion pour l'outil
En fait, on a déjà cherché une plateforme d'édition de contenu et on s'est dit, est-ce que c'est pas l'occasion d'en faire une maison? Pendant longtemps, pour les médias et pour les éditeurs de contenu, le fait d'avoir une plateforme maison, c'était une vraie valorisation de leur entreprise. C'est-à-dire que, je me rappelle encore, Le Monde, il y a 5-6 ans, était hyper fier de sa plateforme d'édition de contenu. Ils disaient, on peut tout faire avec. Et c'était le cas de tous les médias qui ont investi massivement dans des plateformes de contenu maison. Sauf que malheureusement, ces plateformes, elles n'ont pas été conçues pour tout ce qui s'est passé dans le web après. Elles n'ont pas été assez suivies, il n'y a pas eu assez d'investissement dedans, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les médias traînent des casseroles. C'est des plateformes qui sont plus mises à jour, à qui il manque plein de fonctionnalités. Les journalistes s'en plaignent parce que ça n'a même pas adapté au journalisme mobile maintenant. Alors que maintenant, c'est quand même complètement quelque chose d'acquis dans le journalisme de pouvoir éditer du contenu en mobilité même sur un smartphone, tu vois.
Ouais.
Et c'est un exemple de l'intégration des réseaux sociaux, etc., etc., etc. Et du coup, nous, on a eu cette réflexion en disant, bon, on pourrait très bien faire une plateforme maison, ça nous prendrait quasiment autant de temps. Par contre, est-ce qu'elle serait assez solide et est-ce que toute l'énergie qu'on mettrait dedans est nécessaire? Et là, donc là, on a fait la première expertise, c'est qu'on s'est dit, la meilleure plateforme de contenu aujourd'hui, c'est WordPress. Mmh. Et ça, on l'avait déjà bien compris avec Frandroid, parce qu'on n'a jamais eu de problème. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu imaginer sur Frandroid, on n'a jamais eu de problème pour l'appliquer. WordPress était toujours là, même si aujourd'hui, il y a des bouts de WordPress, de l'architecture qui commencent à vieillir. On sait que derrière, c'est tellement suivi et c'est tellement gros que ça va évoluer dans le bon sens. Donc ça, c'est un bon point. On a choisi WordPress. Mmh. Et après, on s'est dit, par contre, la partie WordPress, elle a un gros problème, c'est que la partie communauté, pardon, est mauvaise. Tout simplement, et on veut pas faire du commentaire classique, on voudrait aller plus loin dans l'intégration, et pour le coup, effectivement, là, ça nécessite peut-être pas mal d'intégration maison. Et donc, on a fait le tour des plateformes de discussion, et on est tombé sur une plateforme qui s'appelait Discourse, mmh. Très moderne, très orientée développeur, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'outils très très geek, j'ai envie de dire. Faut vraiment pas mal le prendre, c'est-à-dire que c'est très technique.
C'est ouais, très axé outils et techniques, ouais.
Voilà, outils et techniques, mais très puissant, très flexible, avec une bonne communauté suivie. On s'est dit pourquoi est-ce qu'on perdrait du temps à développer ça alors que derrière tout est prêt. Et ouais. Par contre, on a passé notre temps, c'est-à-dire 4 mois de la part de 4 développeurs, à faire de l'intégration profonde. Le mariage entre Discourse et WordPress, il n'est pas complètement entamé chez nous, mais il est bien parti. C'était un gros boulot d'intégration et ce n'était pas du tout naturel pour le coup. Par contre, on repose maintenant sur 2 plateformes qui sont suivies et qui sont complètement agiles. Donc,
Un petit avertissement entre guillemets, j'imagine que ça fait partie des problématiques que vous devez aborder. WordPress de base, si jamais on l'installe, j'allais dire comme beaucoup de blogueurs amateurs, c'est sans doute là où il y a le plus de risques en termes de sécurité par rapport à un site. Ouais. J'imagine que c'est quand même quelque chose que vous surveillez vachement. Vous devez avoir une review, j'imagine, des failles de sécurité.
Sur Frandroid, on a eu beaucoup de problèmes de sécurité. Ouais. Par contre, ce que je peux te dire,
et quand on parle de politique, j'imagine même pas.
Une plateforme maison est beaucoup moins sécurisée dans tous les cas qu'une plateforme comme WordPress. WordPress, effectivement, vu que c'est très utilisé et que c'est du coup c'est très ciblé par comme n'importe quel produit, j'ai envie de dire. Du coup, effectivement, il y a régulièrement des failles de sécurité. Néanmoins, je trouve ça totalement sain et le code source, il est accessible. C'est-à-dire que si on doit le corriger, c'est déjà arrivé que Baptiste et moi, on anticipe les corrections officielles pour pouvoir corriger, combler une faille de sécurité. Par contre, il y a quand même une énorme réactivité. Moi, je préfère largement ça qu'avoir une plateforme maison avec personne qui la suit et puis qu'on découvre, genre 2 ans plus tard, qu'on avait une grosse faille de sécurité sur Là, je veux dire, quand on a repris Numérama, le code de Numérama qui avait 6 ans, Baptiste, il hallucinait. Genre, il y avait de quoi, avec assez peu de connaissances, pouvoir prendre totalement le contrôle de la plateforme.
Ouais, ce qui, par les temps qui courent quand même, quand on a un média visible, est plutôt touchy, effectivement. Tu laissais aborder, c'était le deuxième aspect un peu format, même si on sort un peu de la technique. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises, je crois, dans l'article, dans le billet Medium que tu as diffusé, oui, et que tu as mentionné tout à l'heure. L'idée que vous avez derrière aussi, c'est de peut-être pas vous cantonner à faire que des articles. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez avoir votre Tech Café ou votre, comment ça s'appelait à l'époque, Androtech. Que vous envisageriez de relancer sous un format Numérama?
Non, bah alors déjà sur Frandroid, on va lancer un podcast. On en avait parlé ensemble il y a quelques semaines. Je voulais lancer Numérama et je voulais me reconcentrer sur ça. Sur Frandroid, on va avoir on va pas appeler ça un podcast. on n'aime pas utiliser les termes classiques.
Non, c'est clair,
ça un talk show. Okay,
c'est pas beau, podcast. C'est pas chouette.
On va utiliser c'est le mot talk show, qui est un mot anglais mais qu'on aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez classe, quoi. L'idée, c'est juste de discuter ensemble, quoi, autour d'un sujet. Frandroid, on va lancer ça dans 2-3 semaines. Ça va être un format, je sais pas si c'est spécial, tu peux me le dire, mais ça va être un format de 25 minutes mono-sujet.
Ouais, en fait, c'est pas facile d'obtenir ça quand on est alors pour le coup, pour utiliser le terme, un podcasteur amateur, parce qu'on se laisse vite déborder. Moi, je me fais déborder tout le temps et j'aime ça. Mais effectivement, un vrai support magazine plus professionnel, à mon sens, devrait plus faire 25 minutes. Mais c'est rarement vu, en fait. Parce que...
Mais j'aime bien ce format parce que j'ai remarqué qu'un podcast de 1 à 2 heures pour certains, j'en écoute énormément, mais j'arrive vraiment à les écouter en une seule fois. Et je suis un peu frustré parce que, des fois, j'oublie de les reprendre et je m'aperçois 2-3 semaines plus tard que j'ai pas fini un podcast. Donc, bon, c'est dommage parce que des fois, ils sont vraiment intéressants, quoi. Sur certains sujets, t'as vraiment envie d'avoir le mot de la fin. Et surtout, les podcasts, souvent, ils ont un sommaire, un programme assez chargé et il y a pas tout qui t'intéresse et c'est difficile de tomber sur la partie qui va vraiment t'intéresser. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis dit, il me faut un format qui puisse être monosujet dans le sens où les gens puissent rapidement délimiter le sujet qui est abordé dans le podcast. Court, c'est-à-dire moins d'une demi-heure. Et ça nous permet du coup de pouvoir plus facilement le distribuer ailleurs que sur les plateformes de podcast. Donc, voilà. Il y aura de la vidéo, mais qui ne sera pas l'aspect principal au début. Il est surtout important pour pouvoir montrer nos têtes, mais surtout montrer les produits quand on a des produits à montrer, etc.
Ouais, c'est vrai que pour la tech, ça peut aider, effectivement. Du coup, on fait un petit clin d'œil à ceux qui nous ont abandonnés, puisqu'on va être dans un épisode d'une heure nous-mêmes.
Je suis désolé.
Non, mais
c'est vrai qu'on déborde. Faudra faire vraiment attention. Je crois que j'en mettrai un compteur.
Tu verras, c'est pas facile.
Ça tiendra rouge.
Tu m'en reparleras à ce moment-là.
Ça s'arrête. C'est...
Et plus pour parler sur l'aspect du fond, aujourd'hui Numérama c'est tech, politique, pop culture, business et science, ça fait 2 fois que je le dis. Est-ce que vous envisagez à terme d'ouvrir ces rubriques-là? Est-ce que vous n'y avez pas forcément pensé? Est-ce que vous allez les compléter?
Comment ça ouvrir? Alors déjà, je peux dire
rajouter des rubriques et des thématiques.
Il y aura des expérimentations en vidéo, etc. l'année prochaine, mais bon, ça on n'en est pas encore là. Alors les compléter? Non, je pense pas. Je pense que là, avec ces 5 univers, on arrive à tout faire. Moi, les univers qui m'intéressent vraiment, c'est la pop culture, parce que c'est de la culture web dans lequel on arrive à parler beaucoup de choses, et c'est là, pour moi, un des univers les plus ouverts, dans le sens où on peut parler de jeux vidéo, on peut parler de cinéma, de séries télé, de musique, de musées, etc.
Sans pour autant s'infliger la peine d'être exhaustif, quoi. Du coup, quand tu parles de séries, tu peux parler des séries qui ont du sens ou sur lesquelles il y a des choses à dire, sans pour autant s'obliger de parler de toutes les séries, quoi.
Oui, voilà. Par exemple. Puis tu peux aussi, c'est ça, et ça fait vraiment plaisir de se dire, et c'est vraiment ça qu'on voulait sur Numérama, c'est-à-dire ne pas courir après la hot news ou ce que vous voulez, je sais pas, le breaking news, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner toute l'actualité de tous les domaines. On est là pour pouvoir écrire des contenus qui nous ont fait plaisir, qui nous passionnent et qui du coup vont vraiment être sectionnés sur le pouce, tu vois. Mmh. Sinon, tu vois, dans le jeu vidéo, c'est le boulot d'une équipe entière. Et même chose pour tous les domaines. Donc là, pour le coup, c'est à nous de sélectionner les sujets qui vont être pertinents, les sujets qui vont nous passionner. Voilà, aujourd'hui, j'aide un peu l'équipe, mais je veux pas trop. Je vais plutôt me remettre sur Frandroid. Mais là, j'ai aidé l'équipe Numérama et j'ai écrit un sujet sur l'Adawik, qui est une association qui va sensibiliser, couvrir les discussions autour de la place des femmes dans les sciences et les nouvelles technologies. Voilà. Il y a une conférence, un rendez-vous dans lequel il y a des conférences, etc., qui a lieu cette semaine. Et du coup, c'est bien parce que ça ouvre des sujets vraiment intéressants. Et moi, j'ai créé du coup un petit papier dessus, où j'essaye justement de gommer un peu les préjugés en disant qu'il y a un vrai problème et c'est bien d'en prendre conscience et qu'il faut trouver des solutions pour. Et j'ai fait une petite sélection de comptes Twitter, de femmes à suivre voilà. Et un mélange de personnes que je suis, dont j'avais envie de parler.
Merci Ulrich. Tiens, juste une petite mention. Il me semble que dans tout le teasing que vous faisiez, il y a une photo de toi qui a circulé où tu, en tout cas, on te faisait dire, c'était peut-être toi qui le disais, que l'avenir était inattendu, c'est ça? Je ne me trompe pas. Tu peux nous dire en quoi tu trouves que l'avenir est
inattendu? Ouais, c'est marrant. C'est marrant que tu tiltes dessus. En fait, voilà, la campagne de lancement, on n'avait pas de budget, on s'est dit, il faut quand même un petit truc pour teaser. Donc, mardi dernier, avant le lancement, on a invité quelques journalistes, etc. Vraiment des personnes de confiance qu'on a choisies. Donc, on avait des grands médias, etc. Mais des personnes qu'on connaissait à travers notre réseau. Et on leur a dévoilé en avant-première le projet. Pour essayer de leur expliquer toute notre démarche comme on l'a fait sur Medium et de vive voix, essayer d'avoir leur premier retour, etc. Donc le site est encore plus buggé que ça l'est aujourd'hui, mais on a pu pendant toute une soirée discuter avec eux. Et pour certains, on leur a proposé de participer à et on avait fait une espèce de room secrète au bureau, on avait été dans nos locaux. Et à la fin de la discussion, on leur a dit, bah, passez 2 minutes dans la room secrète. Donc, on avait mis un ordinateur au milieu de la salle, un petit iMac qu'on avait développé un petit formulaire où on te posait 2 questions. La première, c'était qui es-tu ? Et l'autre, c'était de répondre à l'avenir est en un seul mot. Et il faudra que je continue même après le lancement, mais l'idée c'était qu'on a pu recueillir beaucoup de choses et ensuite on invitait les gens à les prendre en photo et on a fait quelques petits montages, on a essayé de rendre ça assez humain, assez personnel, où on reprenait la phrase, donc moi j'avais écrit « l'avenir est renversant », etc. Mais on a eu beaucoup beaucoup de mots. D'ailleurs, je pense que le pire mot, pas le pire mais le plus noir, c'est pas le plus noir, mais je comprends pourquoi il a mis ça, mais PO a mis l'avenir est anxiogène. Ouais, mais dans le sens où c'est pas que ça lui fait peur, c'est
pour moi anxiogène c'est pas effrayant. J'ai vu les réactions qu'il y avait eu, effectivement pour moi anxiogène c'est pas effrayant, c'est plutôt
de l'angoisse.
Ouais,
c'est
ça. Voilà. Ouais,
puis bah, c'est vrai, hein, l'avenir est anxiogène, c'est vrai.
Et puis si on le prend tel quel et si on se laisse déborder par ce qu'on en dit, on peut vite prendre un peu peur, effectivement.
Si on prend tel quel, c'est vrai que de toute façon, le taux de CO2 augmente et que l'air est de plus en plus, est de moins en moins saturé en oxygène. Mais...
et qu'il faudra bien trouver une autre planète qui nous habitera plus tard.
Non, mais c'est vrai. Et du coup, au lancement, on a dévoilé la baseline qui était « l'avenir est inattendu ».
Ouais.
Pour nous, c'était un peu le lancement du Merma est inattendu et aussi parce que pour nous, et c'est la vraie réflexion qu'on a, tous les gens qui essayent de prédire le futur, l'avenir, qui essayent de prédire les prochaines grandes révolutions, les grandes évolutions, les avancées technologiques, mais en fait ils se trompent. Ils se trompent dans le sens où pour nous l'innovation, elle provient d'une chose assez simple, elle provient de lorsque tu as 2 univers qui ont peut-être rien à voir, ces 2 univers se rencontrent et du coup ça crée une espèce de Big Bang, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment on peut le créer, de friction qui fait que là, il découle d'innovation. En fait, ça découle d'innovation et ce genre de friction, on ne peut pas la prévoir.
Tu parles spécifiquement de l'avenir sous l'angle d'innovation. Mais effectivement, oui. Il peut y avoir des bouleversements que plein de personnes peuvent prédire. Enfin, j'ai en tête des travaux que peut faire un mec comme Jacques Attali, par exemple.
Oui.
Il arrive à anticiper un certain nombre de choses, mais c'est vrai que c'est pas tant des innovations que.
Mais en fait, ils arriveront jamais ils peuvent très bien les prévoir, mais ils ont du mal à prévoir exactement quand est-ce que ça arrive parce que on arrive très difficilement à prévoir ce que peut les changements qu'il peut y avoir dans la société, la vitesse où ça arrive, les révolutions qu'il peut y avoir, etc. Enfin, c'est des choses qui nous dépassent et justement, souvent, c'est inattendu quand même. Voilà, c'est un peu la réflexion qu'on a eue, mais c'est surtout le lancement du Merma qui est inattendu. Est-ce qu'on pouvait attendre qu'un média de 13 ans, un peu à bout de souffle, puisse être relancé par un groupe indépendant? Enfin, nous, nous-mêmes, ça nous a surpris. On l'avait jamais imaginé ça. Donc,
bravo. Un dernier petit mot aussi sur la façon dont vous avez, je le disais au début, mais parler un petit peu des coulisses, notamment avec les articles sur Medium. Ça ne peut pas m'empêcher de penser qu'il y a aussi peut-être une forme de pied de nez, de réflexion que vous menez derrière, à l'heure où on voit que les réseaux sociaux tentent de diffuser du contenu. On l'a vu même avec Facebook qui cherche à proposer du contenu au format article avec une expérience de navigation plutôt sexy pour garder les internautes dans leurs écosystèmes de réseaux sociaux. Medium qui a tout de suite une autre philosophie. C'est osé de lancer un média et d'aller diffuser du contenu sur des supports type réseaux sociaux en fait, non ?
Bah ouais, mais j'aime beaucoup Medium dans le sens où on a vécu, je pense, tous les deux l'avènement des blogs. Et moi, j'avais trouvé que c'était, même s'il y a eu des dérives, c'était quelque chose de très riche parce que ça donnait la possibilité aux gens d'écrire, mais vraiment d'écrire, c'est-à-dire des vrais papiers. Et les réseaux sociaux, même si je suis extrêmement friand de Twitter, j'adore le format, je trouve que j'adore ce format, il y a l'instantanéité, etc. C'est-à-dire, c'est pour moi le réseau social de référence, parce que bon, c'est vrai que les passions occupent une grosse partie de ma vie et que du coup j'arrive à les retrouver sur Twitter. Mais en gros, par contre, ces réseaux sociaux, je trouve que du coup ils ont déshabillé un peu les blogs dans le sens où, où il en reste très peu aujourd'hui. Et je suis content d'avoir des plateformes comme Medium. D'ailleurs, ça jalouse un petit peu. Ça fait naître de la jalousie chez Facebook, mais en fait, c'est un espace de discussion où on arrive à avoir des papiers de très bonne qualité, parce que derrière, on a un outil qui est prévu pour ça, quoi. L'édition est magnifique. Quand, essaye de, je sais pas, amuse-toi, je sais pas si t'as l'occasion de créer un, j'invite tout le monde à le faire, de créer un article sur Medium. Sur n'importe quoi, il est pas obligé de le publier, on peut le mettre en brouillon. On peut même partager un article en brouillon. Mais c'est hyper simple, c'est hyper intuitif. En l'espace de 10 minutes, on a compris comment mettre une photo, comment éditer le contenu, etc. Je pense que c'est une des plateformes les plus intuitives. Et du coup, elle est hyper puissante parce qu'elle donne une liberté d'expression qui est... Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est ce qui est dommage, c'est qu'il y a très peu de contenu francophone encore.
Ça va peut-être venir avec notamment des petits échanges comme on vient d'en avoir, on va savoir.
Et c'est aussi le boulot de Medium de pas trop pousser, d'essayer de faire du local. Et donc, quand tu vas sur la page d'accueil, tout le contenu est en anglais.
Oui, il y a du boulot là-dessus. Il y a du boulot. une dernière question, parce que très objectivement, j'ai pas du tout connaissance de la réponse. Est-ce que du coup, je sais que chez Humanoid, c'est assez régulièrement que vous affichez des offres d'emploi. Est-ce que la relance de Numérama remet en question le fait que votre groupe recruterait des talents divers et variés, ou est-ce que c'est plus du tout à l'ordre du jour ?
Si, alors. On a recruté beaucoup de gens cette année, beaucoup. C'est genre, je crois qu'on a créé 6 CDI et 3 CDD. Hein. C'est ce qui est juste énorme. Je pense qu'on va faire attention un petit peu. Là, on a les bonnes ressources. Par contre, on regarde de très près le lancement Numérama. Ça ouvrira sûrement des postes l'année prochaine, des postes de journalistes. Et surtout, on a prévu des budgets pour des piges. Pour des longs formats, des dossiers, etc. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous soumettre des papiers, des idées, qui sont capables derrière d'avoir une plume de qualité, nous, on sera contents de pouvoir financer ces papiers, quoi. De façon modeste, hein, mais je pense que ça peut être, nous, c'est là où on a souvent des surprises parce qu'on nous a déjà envoyé des papiers de. Non, on était tellement fiers de pouvoir les publier que voilà. Et pour faire le petit teasing, justement, on a des super papiers qui sont prévus sur Numérama, dont un, je pense qu'il va être impressionnant. On a été voir la boîte qui s'occupe des effets spéciaux du prochain Star Wars, et du coup, on a une entrevue qui est même un dossier entier sur la personne qui est responsable des effets spéciaux du prochain Star Wars.
Excellent, effectivement, c'est, ouais. C'est alléchant.
Et ça, c'était... C'est une surprise pour nous.
Inattendu. Ouais. Merci beaucoup, Ulrich. C'était vraiment intéressant. On était parti pour parler un petit peu du nouveau média de manière un peu en le survolant. Et puis, du coup, on est arrivé à échanger tous les deux de choses un petit peu qui allaient un peu plus dans les coulisses.
Ouais, désolé, c'est surtout un moi peu qui suis dans la team.
Peut-être que je vais tout massacrer au montage. Ah, non, c'est pas vrai en plus. Merci beaucoup, Ulrich.
Merci beaucoup, Guillaume.
Pour rappel, vous nous retrouvez sur techcafé.fr. Allez jeter un petit coup d'œil au Tipeee si jamais. Le projet de financement vous parle, et puis comme d'habitude vous pouvez rentrer en contact avec nous individuellement. Alors toi de ton côté, Ulrich, si jamais les gens cherchent à te contacter à titre perso pour réagir sur les choses que tu auras dites là,
principalement sur Twitter, c'est Ulrich Rosier, donc Ulrich c'est U-L-R-I-C-H et Rosier c'est avec un Z au milieu, et en plus j'ai ouvert mes DM. Je peux pas suivre tout le monde parce que c'est vraiment la puissance de Twitter, c'est qu'il faut limiter les personnes que tu suis pour que ça soit le plus efficace possible. Du coup, je me suis limité à 150 maximum, et j'en suis bientôt très très proche. Mais du coup, j'ai ouvert mes DM, mes direct messages. Du coup, les gens peuvent m'en envoyer de façon complètement libre.
Je trouve que ça devrait être l'option par défaut de Twitter. Ça l'est peut-être d'ailleurs, je sais pas.
Non, ça l'est pas. Ouais. Il faut l'activer dans les paramètres, et surtout. Enfin, si maintenant quand on va sur le profil, on peut le voir, mais voilà. Et je voulais un petit mot aussi pour. Bah, je te remercie, je trouve que tu m'offres une super opportunité. Je suis hyper content de pouvoir discuter de tout ça. On est vraiment ouvert sur Frandroid, sur Humanoid, parce qu'on veut faire les choses vraiment avec le plus de transparence possible. On veut surtout pouvoir amener le web ailleurs, avec nous. Donc c'est important qu'on puisse partager le maximum de choses. Toutes nos réflexions, toutes nos avancées. Dès qu'on aura des résultats intéressants, je les partagerai. Et puis n'hésite pas à m'inviter dans tes cafés. Je te promets que je parlerai beaucoup moins.
Ça marche, c'est bon. Entendu. Merci beaucoup Ulrich. En tout cas, on se dit à très bientôt. Et puis à tous les auditeurs, à tout bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao, ciao.
Ciao.